Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
C'est véritablement moi-même. Bonjour à tous. En pleine rue, comme en lieu clos, le port du masque devient de plus en plus obligatoire en Europe, en France. Dernière recommandation en date, celle du Haut Conseil en Santé publique. Explication de Pauline Joss. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko vient de s'entretenir avec son homologue et soutien Vladimir Poutine. Des milliers d'opposants à l'autocrate se sont rassemblés à Minsk, précision de Nabila Hamel. Enfin, avec Margot Siffer, nous soulignerons l'excellente prestation de l'université Paris-Saclay qui, pour la première fois, entre dans le top 15 du classement de Shanghai. Lorsque les circonstances locales l'exigent, c'est écrit en toutes lettres sur les circulaires qui trônent, sur les bureaux des préfets, port du masque obligatoire au cas par cas. La vitesse de circulation du virus fait l'objet d'un sérieux suivi. Circulation qualifiée de rapide à Paris et dans les Bouches-du-Rhône, longtemps considérée comme inutile par les autorités, le port du masque est devenu le rempart contre le virus. Bonjour Pauline Joss.
Bonjour Mathieu.
Pauline, rempart avant tout en milieu clos de toutes sortes.
Oui, c'est en tout cas la ligne défendue par un groupe de professionnels de santé signataires d'une tribune parue hier dans le quotidien Libération. Ils demandent que l'obligation du port du masque soit étendue à tous les lieux clos collectifs, y compris les bureaux ou les salles de classe. Parmi les signataires, il y a Jérôme Marty, médecin généraliste et président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre.
Ce que l'on sait depuis maintenant des mois, c'est que les points de départ des foyers épidémiques, des fameux clusters, se font en lieu clos, entre les murs. C'est pour cela qu'il faut impérativement que l'on porte le masque à l'intérieur, puisque à l'intérieur, il y a de la suspension de particules virales, c'est-à-dire du virus qui reste en l'air, qui flotte dans l'air, quand l'air n'est pas renouvelé, avec un risque que l'ensemble des personnes qui se trouvent dans ce lieu clos à cet instant respirent ce virus et se contaminent. Donc il faut porter le masque en lieu clos et il faut aérer les pièces.
Comme je vous le disais en titre, recommandation à laquelle adhère le Haut Conseil français de la santé publique, Pauline.
Oui, pour l'instance sanitaire, c'est également la meilleure stratégie à adopter pour lutter contre la Covid-19. Dans son étude, le Haut Conseil décrit la fraction très majoritaire que représentent les lieux clos parmi les nouveaux cas de contamination enregistrés. Par exemple, les restaurants, les bus, les réunions familiales et certains milieux professionnels comme les abattoirs. Si les autorités semblent suivre avec attention ces recommandations médicales, l'adoption des mesures est, elle, graduelle. La preuve avec l'évolution de la cartographie du port du masque obligatoire dans les rues de Paris entre le début de semaine et aujourd'hui. La préfecture a dans le même temps déclaré que les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais interdits si les gestes barrières ne peuvent être respectés. Car même si le masque est la pierre angulaire de la stratégie de lutte contre les contaminations, le Haut Conseil français de la santé publique rappelle également l'importance des autres mesures barrières, comme la distanciation physique, l'hygiène des mains et l'aération des locaux.
Merci à vous, Pauline Joss. Hier soir, de longues files d'attente au port de Calais, peuplées de Britanniques soucieux de rentrer au pays sans tarder, de peur d'être soumis à une quatorzaine après la décision de Londres d'imposer une quarantaine. Décision entrée en vigueur ce matin à 8h. L'Allemagne, elle, a décidé de placer toute l'Espagne, à l'exception des îles Canaries, dans la catégorie des pays à risque. Et puis des milliers d'Albanais travaillant en Grèce sont, eux, bloqués à la frontière entre les deux pays, tentant de passer avant d'être dans l'obligation, à compter de demain, de présenter un test négatif au Covid-19. À une large majorité, le Conseil de sécurité des Nations Unies rejette une résolution américaine visant à prolonger l'embargo sur les armes en Iran. Les États-Unis humiliés ont échoué dans cette conspiration, déclare ce matin le président iranien Hassan Rouhani. Moins de répression observée à tout le moins ces dernières heures en Biélorussie face aux manifestants, mais pas question pour eux de renoncer à leur mobilisation, notamment à celle prévue en ce moment même à proximité du métro Pouchkin, là où un protestataire a trouvé la mort lundi. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Nabila, en plus des grèves et des marches organisées hier, de grands rassemblements pacifiques devraient se tenir ce week-end à travers tout le pays, à l'appel de la principale candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya.
Oui, réfugiée depuis 4 jours en Lituanie, celle qui a osé défier l'inamovible président Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994, en appelle une nouvelle fois à un week-end de mobilisation et demande même aux maires des différentes villes du pays de s'en faire les organisateurs. Svetlana Tikhanovskaya revendique la victoire à la présidentielle de dimanche dernier et appelle ses électeurs à signer une pétition en ligne pour réclamer un nouveau décompte des voix et une enquête sur le scrutin. Pour rappel, les chiffres officiels ont donné le président sortant vainqueur avec 80% des voix, alors que l'opposition a dénoncé un scrutin entaché de fraude massive. Si elle est novice en politique, celle qui s'est présentée à l'élection présidentielle en prenant la suite de son mari emprisonné, demande au pouvoir de faire cesser les violences et de passer au dialogue. Elle a entre-temps annoncé la création d'un comité pour organiser le transfert du pouvoir. Hier en tout cas, et alors que les grèves et les rassemblements avaient repris, notamment devant le siège du gouvernement à Minsk, ces manifestations se sont déroulées sans heurts. Du moins, les forces de sécurité n'ont pas chargé les manifestants comme elles l'ont fait en début de semaine. Sur les 6700 personnes arrêtées ces derniers jours, 2000 ont été libérées. Certaines ont toutefois témoigné de conditions de détention atroces, inhumaines, voire de torture. Il reste à savoir si les autorités biélorusses opteront pour l'apaisement lors de ce week-end de manifestations qui commencent.
Mais Nabila, cela ne semble pas être le sens de l'échange que vient d'avoir Alexandre Loukachenko avec Vladimir Poutine.
Oui, le président Alexandre Loukachenko avait demandé à s'entretenir de toute urgence avec Vladimir Poutine, avec son homologue russe, une espèce d'appel au secours. Une agression est en train d'être menée contre la Biélorussie, disait-il, et ce n'est pas uniquement une menace contre nous.
Merci à vous, Nabila Amel. En Éthiopie, les personnalités de l'opposition et les journalistes visés par une récente vague d'arrestations se sont vus refuser l'accès à un avocat et sont détenus dans des conditions qui les exposent au coronavirus, alerte lancée par Human Rights Watch. Plus de 9000 personnes ont été arrêtées à la suite des violences qui ont éclaté le 29 juin à Addis Abeba lors du meurtre du chanteur Achalou Hundessa, très populaire dans sa communauté Oromo, communauté dont il exprimait le sentiment de marginalisation économique et politique. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Ce n'est qu'un classement qui plus est aux critères contestés, mais il n'est pas inintéressant de s'y pencher. Il s'agit du classement de Shanghai, classement des meilleurs établissements du supérieur. Et l'université Paris-Saclay figure en bonne place cette année, Margot Siffer. Elle devient le premier établissement d'enseignement supérieur français à se hisser dans le top 15, toutes disciplines confondues.
Pour que Paris-Saclay réalise cette performance, rien n'a été laissé au hasard. Doté depuis fin 2019 du statut d'établissement expérimental pour une durée de 10 ans, l'université s'est substituée à l'ex-université Paris-Sud. Elle s'est aussi alliée à 4 grandes écoles et à 7 laboratoires de recherche. Un nouveau modèle d'université, donc, pour un résultat final impressionnant. En effet, Paris-Saclay compte 48 000 étudiants, mais aussi 9 000 chercheurs, 275 laboratoires et 7 organismes de recherche, soit 13% du potentiel de recherche français. Ces restructurations pèsent donc forcément sur l'attractivité à l'international et notamment sur le positionnement dans le classement de Shanghai. Les critères au nombre de 6 y sont essentiellement quantitatifs. Nombre de prix Nobel et de médaillés Fields parmi les chercheurs, nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou encore nombre d'articles publiés dans les revues scientifiques de référence. Pour autant, et contrairement à d'autres classements, celui de Shanghai ne considère par exemple ni la qualité de l'enseignement dispensé ni les chances de ses étudiants de trouver un travail après avoir été diplômés, de quoi nourrir de nombreuses critiques de la part du monde scientifique.
Et l'université américaine de Harvard reste pour la 18e année d'affilée en tête de ce classement de Shanghai. Dans la Silicon Valley, non dépourvue de matière grise, une coalition d'entreprises dont font notamment partie Google et Facebook ont travaillé en amont de la présidentielle américaine à développer de nouveaux dispositifs de lutte contre les fausses informations. La présidentielle de 2016 a en effet laissé de bien mauvais souvenirs. Loïc Piala nous appelle de Los Angeles.
Facebook, Google, Twitter ou même Snapchat, dont les utilisateurs sont plus jeunes, ont chacun leurs propres outils. Mais au final, ils visent tous le même objectif, donner un maximum d'informations neutres sur où et comment voter, en orientant par exemple le public vers les sites officiels où s'inscrire. Que ce soit à travers le Voter Registration Mini de Snap, une liste d'instructions dans le moteur de recherche de Google ou le centre d'information de Facebook lancé cette semaine. En cette période de pandémie, les experts s'attendent à une recrudescence du vote par correspondance. Alors, le décompte des voix pourrait durer et toutes ces plateformes s'inquiètent des théories du complot qui risquent de circuler si l'annonce des résultats s'éternise. Facebook assure que des modérateurs seront à l'œuvre le 3 novembre pour stopper toute campagne de désinformation. Mais certains experts s'interrogent, que faire quand l'un des premiers à propager l'idée d'une fraude massive liée au vote par correspondance est le président américain lui-même, Donald Trump.
La météo de l'après-midi en quelques mots, le temps mitigé avec un nord humide, des nuages à l'ouest et du soleil dans le reste du pays. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Yanis Djoudad.